curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au jeudi, de 17h30 à 18h30.
Mayotte brûle. Et derrière les flammes, c'est un cri que l'on entend. Celui d'un territoire oublié, à la dérive entre pauvreté, migration forcée et violence. Ce département français de l'océan Indien révèle les impasses de nos politiques et les failles d'une république qui n'arrive pas à tenir ses promesses. Dans les rues de Mayotte, on voit des enfants sans école, des familles sans toit et des expulsions qui laissent un goût amer. On parle d'opérations pour rétablir l'ordre, mais l'ordre pour qui et à quel prix? Derrière ces mesures, on oublie que ce territoire souffre avant tout d'un manque criant de solidarité, d'investissement et d'écoute. Mayotte n'est pas une île isolée de nos luttes. C'est un miroir tendu à une société qui peine à gérer les inégalités, où l'urgence sociale passe souvent après les réponses sécuritaires. Pour répondre à ce cri, il faut des moyens concrets. Renforcer les services publics, repenser les politiques migratoires et agir en concertation avec la population concernée. C'est par la justice et la dignité qu'on répond aux crises, pas par l'exclusion. Mayotte, aujourd'hui, nous appelle à être à la hauteur de nos idéaux. Répondons présents.
Curiosité, l'actu locale décryptée.
Bonsoir à tous, il est 17h passé de 36 minutes, vous écoutez Prune sur les ondes du 92 FM. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025, je suis David et je suis en studio avec Nolan et Roman. Salut, salut à tous les deux.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Bah, très bien, très bien. On n'oublie bien sûr pas de saluer Titouan en régie, salut. Toujours fidèle au poste. Et au programme d'aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, nous écouterons un nouveau numéro de Pensée Locale qui porte sur le 42, un lieu de rencontre autour de l'économie circulaire et créative à Angers. Nous n'aurons pas de pause cadeau cette semaine, mais nous aurons une petite minute consacrée aux nuits de la lecture. Et malheureusement, cette semaine non plus, vous n'entendrez ni la chronique de Victor, ni la chronique Vivre l'espoir fait de Perrine, qui sont tous deux absents. Mais c'est Romane qui endossera le rôle de chroniqueuse aujourd'hui pour nous parler du Blue Monday. Mais tout de suite, place au grand entretien qui, vous l'aurez sans doute deviné, via mon édito, va faire écho avec mon édito du jour, puisque nous allons aborder la situation sanitaire à Mayotte à travers le prisme des interventions sur le terrain du secours populaire. Pour cette interview, je laisse le micro à Nolan, qui va prendre le soin de vous présenter, comme il se doit, notre invité du jour.
Curiosité, l'entretien.
Le Secours populaire, créé en 1945, Enfants de la Résistance, s'engage quotidiennement pour un monde plus juste et plus solidaire. Ses bénévoles de tous âges et tous horizons agissent près de chez eux pour faire vivre une solidarité sans frontières et inconditionnelle, fidèlement à la devise de l'association « Tout ce qui est humain est nôtre ». Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Danielle Alexandre, la secrétaire générale de l'antenne Loire-Atlantique, située 16 rue du Maine à Nantes. Bonjour Danielle.
Bonjour.
Avant de parler de la situation critique à Mayotte, en seconde partie d'entretien, je viens tout juste de présenter l'association dans ses grandes lignes, mais pouvez-vous nous dire concrètement comment vous agissez sur le terrain auprès des personnes les plus démunies?
Alors, bonjour d'abord et merci de la présentation. Sur le secours populaire, bien sûr, on intervient dans différents domaines, bien alimentaire, qui est la porte d'entrée, et après surtout les droits, la culture, l'accès au sport. Là, on vient de passer une très belle période, les Pères Noël verts, pour que tout enfant puisse avoir un jouet à Noël. C'est les sorties, les vacances, la JOV, qui va être sur les 80 ans cette année 2025, un grand projet, 80 000 personnes sur le Champ de Mars à Paris. Donc voilà, on intervient sur tous ces domaines-là.
Vous, Danielle, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir en tant que simple bénévole au tout début, puis par la suite à devenir secrétaire générale d'une antenne?
Tout début, ça remonte. Ça fait 25 ans que je suis au Secours populaire. D'abord, mon engagement syndical qui fait que j'ai toujours été une militante d'associations de quartier, militante au niveau avec les enfants à l'école, les parents d'élèves, et syndicale qui a été très, très importante dans ma vie. Et puis après, bien sûr, vers une association qui me semblait le mieux adaptée pour mes idées. Et donc, c'était le Secours populaire.
Une vie d'engagement, donc.
Une vie d'engagement total.
Il y a deux ans, pour faire face à la baisse des dons, notamment en denrées alimentaires, vous avez dû suspendre les inscriptions de nouveaux bénéficiaires. De quoi en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours difficile de concilier l'arrivée de ces nouveaux bénéficiaires d'une part et des dons en denrées alimentaires souvent insuffisants d'autre part?
Oui, ça a été compliqué il y a 2 ans parce qu'on est arrivé il y a maintenant 3 ans et demi sur ces nouveaux lieux qu'on avait acquis et qu'on pensait vraiment très grands. Et vu malheureusement l'augmentation des personnes accueillies, ça devenait vraiment trop compliqué pour les bénévoles de gérer. Et on était un peu dans cette situation de la situation Covid où on devait vraiment faire de l'abattage, comme on dit en jargon. Et donc, c'était compliqué pour les bénévoles, c'était compliqué pour les locaux aussi. Hein, on ne peut pas contenir plus que pour des mesures de sécurité. Pour pouvoir avoir un accueil aussi vraiment bien pour les personnes qu'on accueille, et puis pour les denrées alimentaires qui sont de plus en plus compliquées à trouver, puisque les produits de l'Union européenne sont en diminution et que les collectes, malheureusement, c'est de plus en plus compliqué.
Comment évolue aujourd'hui le nombre de bénéficiaires sollicitant votre aide? Et est-ce qu'à l'avenir, au vu de la situation politique que nous sommes en train de vivre, cette population sera de plus en plus isolée?
Oui, c'est de plus en plus compliqué, évidemment. On ne peut pas remplacer les pouvoirs publics, qui sont quand même défaillants là actuellement. On a de plus en plus de gens dans la précarité. On retrouve actuellement des personnes qui sont dans une difficulté, qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller au boulot, mais qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Le 15 du mois, c'est compliqué, donc on les voit arriver. On voit aussi une population qui ne se soigne plus ou qui se soigne moins. On voit des enfants qui ne partent plus en vacances parce que c'est vraiment le budget qu'on annule tout de suite. On voit un milieu rural qui est de plus en plus dans la difficulté, et donc ces personnes-là effectivement poussent les portes des associations telles que la nôtre, telles que Secours Populaire. Et comme on est sur avec le Solidaribus dans les communes, on est à peu près toutes les communes du département, on voit de plus en plus ces personnes en difficulté. Aujourd'hui, une augmentation très importante des étudiants. On fait une distribution 2 fois par mois sur Nantes, et on peut voir une augmentation qui a triplé en 6 mois et qui fait que ça devient compliqué aujourd'hui pour tout le monde.
Et depuis le début de votre engagement, donc vous pouvez constater quand même une augmentation de...
Oui, bien sûr, on voit une augmentation de tous ces milieux qui arrivent. On voit aussi la migration qui bouge beaucoup. Donc, effectivement, Nantes est une grande ville, donc évidemment qu'on a de la migration. On a des personnes âgées qui, même si on entend malheureusement que les personnes âgées, les retraités sont les mieux lotis, moi j'invite tous les politiques qui tiennent ce discours de venir dans nos locaux, de venir dans les locaux des associations et de voir malheureusement le nombre de retraités qui sont dans nos locaux pour venir pouvoir chercher de la nourriture.
Et justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, quels sont les lieux dans lesquels les plus démunis ou même les futurs bénévoles peuvent vous retrouver à Nantes?
Alors déjà sur Nantes, c'est rue du Maine, au 16 rue du Maine. Après, sur le site du Secours Populaire pour des personnes qui veulent faire du bénévolat. Mais pour toute personne qui ont des besoins, ils peuvent s'adresser à la rue du Maine.
Ça marche. Eh bien, on peut continuer avec la musique ou pas? Eh bien, on continue l'entretien après une courte pause musicale. On écoute tout de suite la Mendoza de Safari.
Bantani za delir, bad girl oblige au copier. Nous fagnatif, tina zangu deli. Oh non non non, s'en casse la tête. Tu vas mon emploi, t'en fais qu'à ta tête. Ami ou ennemi, un follow follow me. Oh, valise après, gari après. Wam na weri spagna la per, story spagna la per. Les hauts à présent, nous sauvons ta toute la saison. Woti wa handa bila woti de wa fil chamba inde inde tanama oji valise après gari après l'Espagne à la Perse, je te rends une fagne et la belle. Les hôtes à présent, nous sauvons à toute la saison. Une, deux, ta wanga vie. Woti wanganda bila, woti de wafil. Chamba, une, deux, tanama oji. A tout vinza nike dosti na toi, bi a geng, be bata nike dagoni, be pare ni ta kole. C'est ma mona délire, si tu la wana le ou dagon fan. Si wa fani sena wa mi, ne pouwa ye normal on ya waspaf. Give me your love, baby, reach away. Ou venzo si joua, venzo si menya se détare. Valise après, gari après. Wam na we rispanya la perche, te rinfanya la belle. Le ou ta prison, nous sauvons à toute la saison. Une, ou ta wanga vie. Woti wahanda bila woti de wafil chamba une de tanama oji. Valise après, gari après. Wam na we rispanya la perche, te rinfanya la belle. Le ou ta prison, nous sauvons à toute la saison. Une, ou ta wanga vie. Woti wahanda bila woti de wafil chamba une de tanama oji.
Juste avant de repasser le micro à Nolan, on parlait en off avec Daniel en fait des chiffres des étudiants qui font appel en fait à l'association, qui sont de plus en plus nombreux. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que c'était quand même assez édifiant.
Sur les étudiants. Enfin, le Secours populaire est de nombreuses années présent sur la fac pour tout ce qui est vestimentaire. Après Covid, on a pu voir un nombre d'associations se démultiplier et apporter un soutien alimentaire aux étudiants. Donc, on a respecté et on a dit, bon, il y a d'autres associations qui malheureusement ont dû arrêter par manque d'alimentaire, ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est depuis un an et demi, on a ouvert une permanence dans nos locaux à la rue du Maine, spécial étudiant. Et je disais, il y a un an et demi, on avait une petite soixantaine d'étudiants. Aujourd'hui, par distribution alimentaire, le dernier samedi, on avait entre 190 et 200 étudiants. Oui, c'est... Donc c'est une explosion totale.
Vous nous parlez aussi pendant la pause de votre engagement aussi à l'international. Pouvez-vous nous en dire plus avant d'attaquer sur le sujet de la Mayotte?
Voilà. Je disais qu'on a une grande part aussi au niveau du Secours populaire sur l'international. C'est un de nos points forts. Et on disait tout à l'heure en off que, bon, évidemment, un événement chasse l'autre, mais on est encore avec nos partenaires au Maroc sur la reconstruction après le tremblement de terre. On est encore présent, et une délégation est allée il y a très peu de temps, sur l'Espagne, où malheureusement, c'est pas du tout terminé, et c'est sur la reconstruction, et donc le Secours populaire est présent. Et puis là, sur Mayotte, où on est hyper présent.
Eh bien justement, oui, parce qu'au mois de décembre dernier, on le sait, l'île de Mayotte a subi et continue de subir les ravages du cyclone Chido, avec un bilan de préfecture de 39 morts pour l'instant. Suite à cette tempête, les habitants et habitantes manquent de tout, alimentation, eau, essence, électricité, et j'en passe. Si ce n'est pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, a déclaré Macron, c'est pas moi, lors de sa venue sur le territoire mahorais, il y a environ un mois. Pensez-vous que l'aide de l'État français a répondu à temps et répond encore aujourd'hui aux besoins de la population mahoraise?
Je ne sais pas si l'État répond réellement, mais je pense que si les associations s'étaient pas mobilisées, il y avait quand même un manque important dans les médias. Après, tout ce qui est l'État, c'est plus compliqué. Il faut faire tout un tas de démarches. Donc, c'est vrai que les associations telles que le Secours populaire, où on a des partenaires mahorais qui sont présents sur le terrain et avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, ont pu tout de suite, dans les médias, intervenir, puisqu'ils intervenaient déjà sur l'alimentaire, sur l'aide à la scolarisation des enfants, sur le médical. Donc, on a pu être très très vite présent. Le seul truc important, c'était de leur envoyer des moyens financiers pour qu'ils puissent acheter sur place, parce qu'il y avait encore quand même quelques endroits où il pouvait y avoir des achats. Et donc, on a pu, le Secours Populaire, la semaine qui a suivi, a débloqué 100 000 euros pour pouvoir faire des achats.
Et dans combien de temps vous espérez qu'il y ait une situation stable en Mayotte ?
Ça va être très long. Hein. Ça ouais. va être, là, pour l'instant, on a deux délégations qui sont parties. Une première délégation pour faire un constat avec les partenaires réunionnais qui étaient très, très vite présents sur le terrain. Et donc, on a pu faire un constat des lieux et malheureusement, c'était catastrophique. Deuxième délégation qui est partie très rapidement pour pouvoir justement... apporter l'aide financière et l'aide matérielle, donc ce que je vous disais, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit... on a apporté aussi des 60 000 pastilles pour faire l'eau potable, on a apporté des téléphones, on a apporté des ordinateurs, on a eu deux satellites aussi pour pouvoir brancher et pouvoir connecter parce qu'on était coupés du monde. Et donc ça a été très très important. On travaille avec une association qui est dans tout ce qui est l'alimentaire, l'aide vraiment présente. Et puis on travaille aussi avec une association d'étudiants qui, eux, sont hyper présents. Nous, on est sur le nord, sur l'est et sur l'ouest. On n'est pas Mamoudzou vraiment, enfin, on y est, mais on développe vraiment avec les associations. Les étudiants sont hyper présents et eux, ils travaillent vraiment sur l'aide qu'ils peuvent apporter aux enfants. Il n'y a pas de scolarité. Les amis qui sont allés là-bas présents ont vu qu'un certain nombre d'instituteurs et de professeurs en avaient ras-le-bol de cette situation à Mayotte et qui rentraient en France. Donc, quand on dit l'école va reprendre, vous voyez, déjà, elle a reculé de 8 jours, et là, elle est fin de mois, parce qu'il va falloir... Donc, en attendant, les étudiants, l'association des étudiants, prennent en charge les enfants pour qu'ils ne perdent pas trop dans la scolarité et comment ils peuvent les aider.
Donc, il y a une mobilisation qui va durer encore bien quelques mois.
Il y a une mobilisation qui est importante donc, à ces niveaux-là. On a pris aussi contact, la délégation a pris contact avec c'était pas des partenaires, mais on a pu les rencontrer et on va en faire les partenaires, sur l'agriculture, parce qu'en fait, tout a été dévasté. Les agriculteurs, s'ils ont les graines qu'il leur faut, ils sont autonomes. D'ici quelques mois, la végétation va reprendre, donc ils vont pouvoir refaire de la culture. Et on est rentré en contact avec des pêcheurs qui n'avaient plus rien, plus de barque, plus de moteur, plus de filet. Et donc, on a cette habitude, puisqu'on l'a fait sur le tsunami, on l'a fait beaucoup aussi sur d'autres pays. Et donc, on va aider ces pêcheurs à pouvoir retourner en mer. Et une fois qu'ils sont en mer, les poissons, ce qu'ils mangent, voilà, ils sont autonomes. Et donc, tout ça, c'est une reconstruction, mais qui va être lente. Et notre présence est hyper importante. Et les financements, bien sûr, qui est le nerf de la guerre.
On rappelle que vous pouvez solliciter le Secours Populaire pour être bénéficiaire ou pour être bénévole, par téléphone ou sur le site internet www.secourspopulaire.fr ou directement aller à la rencontre au Secours Populaire 16 rue du Maine à Nantes. Merci Daniel.
Merci.
Merci Nolan et merci à Daniel, notre invité du jour. Chaque semaine... Titouan ne s'active pas qu'en régie, mais vous concocte la mise en ligne du podcast de l'émission du jour. Vous pourrez donc retrouver l'intégralité de cette interview, ainsi que le reste de cette émission sur notre site www.prune.net. Avant de ne pas retrouver la pause cadeau cette semaine, vous avez l'habitude, si vous suivez cette émission régulièrement, vous le savez, j'aime bien vous concocter une petite anecdote, soit nantaise, soit historique. La semaine dernière, je vous avais demandé en plateau si vous aviez une idée de ce qu'il s'était passé dans l'histoire à la date anniversaire de l'émission. Et Victor, qui n'est pas présent aujourd'hui, nous avait tous bluffé en répondant du tac au tac « J'accuse d'Émile Zola ». Alors, Nolan, Roman, je me tourne vers vous. Avez-vous une idée d'un événement ô combien important qui s'est déroulé le 17 janvier 1975 ? Alors vous allez me dire, oui, mais on est le 20 janvier, ça ne marche pas. Oui, alors c'est vrai, mais nous sommes sur Prune au 92 FM, une radio qui met en valeur les luttes sociales, et je ne pouvais ne pas parler de cet événement, même à 3 jours près. Est-ce que vous avez une idée ?
Les 50 ans de la loi Veil ?
Exactement. Bravo, c'est un tout pile. J'aurais bien sûr pu parler de la mort de l'empereur Théodose le 17 janvier 395, mais je crois que tout le monde s'en tamponne joyeusement le carquois. Le 17 janvier 1975 était en effet promulguée par le gouvernement français la loi Veil, légalisant l'IVG, interruption volontaire de grossesse. L'IVG qui, depuis, je le rappelle, a été inscrit dans la Constitution française le 8 mars dernier. Et pour le coup, la France est le seul pays au monde, oui, vous avez bien entendu, au monde, à reconnaître dans sa constitution la liberté de recourir à l'avortement. Je trouve que c'était important de le rappeler et de mettre un coup de projecteur sur ce droit qui, malheureusement, est loin d'être acquis dans encore bien trop de pays dans le monde. Bon, il est maintenant 17h passé de 55 minutes et nous n'avons donc pas de pause cadeau, mais nous avons une petite pause d'une minute sur une présentation des Nuits de la Lecture.
Salut Prune, ici Thomas de Gare et Garette. Je suis le programmateur de ce bar-restaurant culturel à Nord-sur-Erdre. Je viens vous parler des Nuits de la Lecture, cet événement organisé par Le Fer, le centre de ressources et de création féminine, qui organise donc cet événement qui se déroule sur 3 jours. Chez nous, ça aura lieu le 24 janvier au soir. Il y aura 2 performances, la première de la chorale Les Casseroles, et ensuite il y aura un spectacle Excel Usine, de Leslie Kaplan, qui sera interprétée par Solène Stéphanie. Si ça vous tente, vous pouvez réserver votre place, parce que c'est limité chez nous, on a quand même un petit lieu. Vous pouvez nous appeler au 02 40 72 20 34 ou sur l'adresse mail garygarette@gmail.com. On vous attend nombreux et nombreuses. Ça va être un chouette événement. On est très fiers et ravis de participer à cette programmation. Voilà, on espère vous y voir. À très vite.
Et on écoute tout de suite Mani Deis, Caballero et Jean Jass avec Païen.
Face Nord, paraît un n'importe quel type d'intempérie. Face Nord, où sont passés les enfants terribles. Oh. Certains sont devenus des putains de rappeurs, d'autres des tueurs en série. Je préfère perdre que gagner sans mérite. Je te souhaite une vie rose et sucrée comme une barbe à papa. C'est nous la vraie chanson française, c'est pas taratata. On veut voir des Renois et des Arabes à table. Plus de Parmigiano sur mes penne arabiata. Mais en plein, putain quel flow. Même moi je me trouve balèze. Elle est grande comme New Balance. Le monde est tien, sers-toi à ta guise. Classique comme Feta Salakis ou Jadakis. J'ai étudié cette science, je suis un historien. Ce qui passe sur Sky, ça me dit trop rien. Laissez-nous raconter de la merde sur d'humanité, c'est pour le bien de l'humanité.
Passe à passe, tu perds tes moyens. Il meurt Dieu, t'es comme Païen. Passe à passe, tu perds tes moyens. Il meurt Dieu, t'es comme Païen. Passe à passe, tu perds tes moyens. Il meurt Dieu, t'es comme Païen. Passe à passe.
Magicien blanc à la Gandalf ou alien barbu genre Alf. Mucho flow, j'ai ouvert les plus grandes valves. Petit fanatique habillé tout en Ralph. Parle mal de mon beau mal, il dit qu'il préfère vraiment Calf. Ultra ou LMF ou UMLA. Yébi violet pour essuyer mes larmes. J'suis mort, déterre, j'arrive toujours au taf à l'heure. Tous ces pénis à valeur ne connaissent pas ma valeur. J'rafale leur sale face, comme si j'étais soviète, comme si j'étais russe. Mauviette, pourquoi tu parles comme si t'étais russe? T'éternues si tu renifles le calipec. J'suis avec 2000 feux, j'fais des galipettes. Charbonne trop, plus personne est debout quand tu rentres. Pour devenir ce que j'suis, ça prend du temps, faut être endurant. Ambiance freestyle qu'on filme au square. Casse ton cou comme Flip Mode Squad.
Passe ta passe, tu perds tes moyens. Il meurt Dieu, t'es comme Païen. Passe ta passe, tu perds tes moyens. Il meurt Dieu, t'es comme Païen. Passe ta passe, tu perds tes moyens. Il meurt Dieu, t'es comme Païen. Passe ta passe, tu perds tes moyens. Il meurt Dieu, t'es comme Païen.
Curiosité, l'actu locale sur Prune, du lundi au jeudi, de 17h30 à 18h30.
Vous écoutez Prune au 92 FM. Place maintenant au Zoom Actu. Il s'agit d'un nouveau numéro de Pensée Locale pour lequel Julien de Radio Campus Angers est allé à la rencontre d'Amandine, salariée de l'établi et coordinatrice du 42, un véritable lieu de vie et de rencontre construit collectivement par des associations et des structures angevines au cœur du quartier de Belbeil à Angers.
Curiosité. Le Zoom Actu. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Comme tous les mercredis, le 42 est ouvert au public. À l'entrée, c'est ambiance café avec des fauteuils issus de la récup. Sur les murs, on peut voir des masques de déco fabriqués par un habitant du quartier. On trouve également un espace de troc où chacun est libre d'échanger ce qu'il souhaite. Un peu plus loin, dans la grande pièce, Thérèse, ancienne fleuriste, anime un atelier de composition florale.
Voilà, vous en mettez tout autour, voilà. Et ça peut être avec les petites boules rouges, des choses...
Ce bâtiment, situé au 42 rue Henri Hamelin, est bien connu des habitants du quartier. Amandine, l'une des coordinatrices du projet.
En fait, il est circulaire ce bâtiment et du coup, il y avait deux espaces. Un espace qui était plutôt dédié à la CAF, mais la CAF telle qu'elle existait avant, plutôt centre social. Et puis sur l'autre partie, qui est plutôt les espaces communs aujourd'hui du 42, ça a été une crèche, enfin même plusieurs crèches halte-garderie qui ont investi le lieu.
Ici, on trouve des gens de tous les âges et de tous les horizons.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression, alors après on n'est pas hyper neutre quand on est dedans, mais que ça génère de la rencontre de potentiellement des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés hyper naturellement. Et notamment parce que du coup on a quand même des artistes qui sont installés dans le lieu. Et puis on a des habitants, habitantes du quartier. Quelques étudiants, étudiantes aussi, parce qu'on n'est pas très loin du campus. Puis après, il y a des gens qui sont plutôt curieux sur le sujet en fait, du réemploi, de l'économie circulaire et qui sont d'autres quartiers, voire d'autres communes. Donc c'est assez varié en fait, dans les rencontres, j'ai l'impression, du public.
Au cours de notre visite, on croise Franck, de la maison de quartier Jacques Tati. Il est responsable de l'espace bricolage du 42. Tous les mercredis et samedis, il aide les gens à réparer des meubles, de l'électroménager ou des vélos. Il rencontre des habitants du quartier de Belbeil, mais aussi de plus en plus d'étudiants.
Et samedi, il y en a qui sont venus, il y en a quatre qui sont venus. Ils vont venir cet après-midi pour bricoler, même pour apprendre à bricoler. Ça, c'est utile. Et les étudiants, ils sont contents, ouais. Il n'y a pas de tâcher sur rien. Dans la joie, dans la bonne humeur. C'est convivial ici, tu vois. Même tu peux, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais sans bricoler. Juste l'histoire de prendre un café, un thé, ou même se poser, lire.
À l'étage, on retrouve des ateliers occupés par 5 artistes locaux, dont Barberine Faure, ancienne élève des Beaux-Arts d'Angers. Pour elle, le 42 a été un grand changement. Ici, pas de lieu fermé et réservé aux artistes, mais un réel espace d'échange et d'enrichissement.
Et en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est chouette parce qu'il y a une vraie cohésion et des échanges autour des pratiques et de nos différents secteurs. C'est assez bénéfique, je pense, pour l'ensemble, que ce soit pour nous ou pour eux au rez-de-chaussée.
Pensée locale, un enjeu de société.
Malgré tout l'investissement mis dans ce lieu depuis presque 2 ans, le 42 va fermer ses portes en juillet prochain. Le bâtiment est situé dans un quartier en pleine évolution et doit être déconstruit en 2025. Pour Amandine, qui était présente dès l'origine du projet, le 42 ne va pas pour autant s'arrêter de vivre.
Le lieu ne va plus exister, mais finalement, ce qui s'est expérimenté ici, on essaye de voir quelle suite on va pouvoir y donner. Les occupants professionnels, ils ont appris à se connaître via le 42, ils ont envie de continuer l'expérience pour certains, certaines, ensemble. Donc ils vont essayer de trouver un autre lieu ensemble. Donc en fait, il y a une fin au lieu, mais il y aura une continuité au travers des liens qui se sont tissés, des actions qui ont fonctionné.
À l'accueil, ce matin, on retrouve Cécile, de l'association Les Filles Récup, installée au 42. Chaque mois, elle donne un peu de son temps pour faire vivre le lieu et aujourd'hui, elle s'occupe de servir les cafés. Pour elle, l'avenir se construit à nouveau, collectivement.
On a envie de rester ensemble aussi parce que y a une grande émulation puis des amitiés qui sont nées aussi. Et c'est chouette de pouvoir travailler en collectif et de mutualiser nos compétences, nos idées. Une belle aventure, on n'a pas envie d'arrêter, donc on cherche un lieu tous et toutes ensemble. Donc c'est ça, c'est en cours. L'après 42, quoi.
De son côté, Marilyn, en plein atelier de composition florale pour son repas de Noël, regrette aussi la fermeture du 42. Pour cette habitante, qui est née et qui a grandi à Belbeil, un quartier prioritaire de la ville d'Angers, cet endroit est devenu indispensable dans la vie du quartier.
Je trouve ça dommage, parce que je pense que c'est plein de créateurs qui apportent plein d'idées, que ça vit vraiment. Dans le quartier, les gens y viennent. Moi, j'ai retrouvé des gens que je connaissais étant jeune, qu'on ne voyait plus par rapport à la vie et qu'on s'est retrouvés. Et c'est un lieu d'échange aussi.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Julien Schott pour Radio Campus Angers.
Dites, est-ce qu'on n'aurait pas un peu envie d'écouter quelque chose qui nous fait plaisir là ? L'autre jour, je suis allé faire une soirée blind test, durant lequel l'un des morceaux à trouver était Purple Rain de Prince. Et s'en est suivi un petit délire sur les traductions en français de certains morceaux. Et se dire que du coup les titres sont parfois un peu ridicules quand on les traduit en français, et les paroles aussi. Et là, l'un de mes acolytes dans mon équipe m'a fait découvrir Pluie Violette de Petits Nuages et Bolide. C'est maintenant, et c'est sur Prune au 92 FM. Maintenant au tour de Romane, qu'on remercie chaudement de remplacer au pied levé nos chroniqueuses qui n'ont qui ne sont pas présents aujourd'hui. C'est donc au tour de Ronan de nous présenter sa chronique sur le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Elle se tient tous les troisièmes lundis de janvier en se basant sur de nombreux paramètres tels que la météo, le manque de motivation ou les dettes d'après-fête. Mais derrière cette journée se cache un stratagème marketing bien huilé.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Les amis, ce matin, ça n'allait pas. La nuit était courte, j'ai renversé mon chocolat chaud par terre, raté mon treadliner, loupé mon tram. Perdue dans ma désolation, prête à hurler dans la rue, mais qu'est-ce que je peux bien avoir fait à la vie ? Je me suis ravisée. En fait, ce n'est pas moi qui étais maladroite en me réveillant, et les transports en commun n'avaient rien contre moi. J'avais toutes les raisons de déprimer, c'est le Blue Monday. Et oui, aujourd'hui on est le 20 janvier, troisième lundi du mois, synonyme du jour le plus déprimant de l'année. Comment a-t-il été déterminé, me diriez-vous ? Eh bien, par un savant calcul scientifique. W plus D, D fois TQ slash M multiplié par NA. Pour faire simple, c'est à cause de plusieurs facteurs. Le début de la semaine, la météo affreuse, il est 18h08 et il fait déjà nuit. On n'a plus de sous à cause des cadeaux de Noël pour belle-maman. Les fêtes sont passées depuis longtemps, personne n'est motivé pour aller bosser. Et les résolutions du nouvel an sont mortes et enterrées. Mais en réalité, cette équation n'a absolument rien de scientifique. Elle a été créée par Sky Travel, une chaîne de télévision britannique consacrée au voyage. Vivant essentiellement de la diffusion de pubs pour des compagnies aériennes, elle crée en 2005 le Blue Monday afin d'inciter les gens à prendre l'avion et s'évader loin de cette prétendue déprime annuelle. L'auteur de cette stratégie marketing et psychologue Cliff Arnall a lui-même annoncé que rien de tout ça n'était sérieux. Mais cette tradition, qui reste basée sur la capitalisation de notre humeur et nos déprimes, a tout de même du bon. Le Blue Monday a au moins le mérite de mettre en lumière la dépression et de libérer la parole sur ce sujet encore tabou. Cliff Arnall dira lui-même « Désormais, j'encourage les gens à réfuter cette théorie et utiliser cette journée pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. » Alors, petit aparté, si vous souffrez de dépression, n'hésitez pas à demander de l'aide. Des numéros spéciaux sont à retrouver sur Internet. Mais revenons-en à nos moutons. En 2016, retournement de situation. Cliff Arnall tente de mettre fin à cette tendance en devenant l'un des principaux porte-parole du mouvement Stop Blue Monday. Dans une vidéo, il indiquait « Un jour, j'ai compris que l'idée du Blue Monday n'avait pas aidé le monde de la façon dont je l'espérais ». Bon, alors Cliff Arnall, hein, c'est un petit malin. Ce message porté par l'Office de tourisme des îles Canaries, vantant son doux climat durant l'hiver, laisse surtout présager une nouvelle campagne publicitaire. Notre bon vieux Cliff, en roi du marketing, a également inauguré le troisième vendredi de juin comme le Yellow Day, le jour le plus heureux de l'année. Il s'appuie sur les activités extérieures, la nature, les interactions sociales, le grand soleil et la proximité avec les vacances d'été, pour ceux qui auront la chance d'en avoir. Bon, là encore, c'est juste une stratégie commerciale pour la vente d'une marque de glace, rien de sérieux. Alors, chers auditeurs, dans le doute, pour contrer la fatalité du Blue Monday, aujourd'hui, profitez. Profitez de cette excuse pour sortir voir vos amis, prendre une bonne bière. Ah non, même ça, on peut plus, hein, c'est le Dry January. Alors, terminez le paquet de chocolat, serrez votre chat dans vos bras, mettez-vous au chaud sous votre plaid et attendons patiemment le Yellow Day.
Merci à toi, Roman, pour cette chronique qui nous fait bien plaisir. Chers auditeurs, Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors, en effet, on a eu une émission un petit peu raccourcie aujourd'hui, pour cause de chômage technique, on pourrait dire ça. Vous pourrez en tout cas retrouver l'émission en intégralité en écoutant le podcast sur www.prune.net. Un programme très fourni vous attend sur les ondes de Prune au 92 FM ce soir. Dès 19h, retrouvez l'émission Chronique d'une cité négrière pour briser les silences et décoloniser les esprits. À 20h, rendez-vous avec la NBA et l'émission Passage en Force pour un débrief des résultats récents. Et enfin, à 21h, retrouvez l'histoire des sons oubliés. C'est deux fois par mois et c'est Lost Grooves. Quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec l'équipe du lundi de 17h30 à 18h30, on l'espère. Merci à Titouan en régie pour la réalisation de l'émission d'aujourd'hui. Merci Nolan, merci Roman.
Merci à toi.
Merci.
Merci David.
À la semaine prochaine et bonne semaine à tous.
Curiosité. Du lundi au jeudi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.